Lorsque parut le docteur Van der Heuvel, l'émotion m'accabla. J'eus le frisson de la terre promise, la joie d'y toucher, l'effroi d'un être banni. Le docteur, grand front chauve, regard puissant d'analyste, bouche douce et pourtant opiniâtre, m'examinait en science, et comme à tous ma maigreur excessive, ma haute taille, mes yeux cernés, mon teint violet lui furent des causes d'étonnement. « Vous dites que vous voulez être étudié ?» demanda-t-il enfin. Je répondis avec force, violence, presque. « Oui !» Il sourit d'un air approbatif et me posa la question coutumière. « Est-ce que vous voyez bien avec ces yeux-là ?»« Oui, très bien, je vois même à travers le bois, les nuages. » Mais j'avais parlé trop vite. Il me jeta un regard inquiet. Je repris, suant à grosses gouttes, « Je vois même à travers le bois les nuages. »« En vérité, oh, ce serait extraordinaire. Eh bien, que voyez-vous à travers la porte, là ?» Il me désigna une porte condamnée. « Une grande bibliothèque vitrée, une table sculptée. »« Oh, en vérité, » répéta-t-il stupéfait. Ma poitrine se dilata, une douceur profonde descendit sur mon âme. Le savant demeura quelques secondes en silence, puis « Vous parlez bien péniblement. »« Mais autrement, je parle trop vite, je ne puis parler lentement. »« Eh bien, parlez un peu selon votre nature. » Je racontai alors l'épisode de mon entrée à Amsterdam. Il m'écoutait avec une attention extrême, un air d'intelligence et d'observation que j'avais encore jamais rencontré parmi mes semblables. Il ne comprit rien de ce que je disais, mais il montra la sagacité de son analyse. « Je ne me trompe pas, vous prononcez de 15 à 20 syllabes par seconde, c'est-à-dire 3 à 4 fois plus que l'oreille humaine n'en peut percevoir. Votre voix d'ailleurs est beaucoup plus aiguë que tout ce que j'ai entendu comme voix humaine. » Vos gestes, excessifs de rapidité, correspondent bien à cette parole. Votre organisation est probablement tout entière plus rapide que la nôtre. Je cours, dis-je, plus vite que le lévrier, j'écris. Ah, s'interrompit-il, voyons l'écriture. Je griffonnais quelques mots sur un buvard qu'il me tendait, les premiers assez lisibles, les autres de plus en plus brouillés, abréviatifs. « Parfait !» dit-il, et un certain plaisir se mêlait à l'étonnement. « Bien, je crois que j'aurai à me féliciter de votre rencontre. Assurément, il serait tout à fait intéressant de vous étudier. Mais c'est mon vif désir, mon plus vif désir. Et le mien, évidemment, la science. » Il parut préoccupé, rêveur. Il finit par dire « Ah, si seulement nous pouvions trouver un procédé facile de communication !» Il se promena de long en large, les sourcils contractés. Et tout à coup « Mais suis-je borné ? Vous apprendrez la sténographie, parbleu ! Une expression riante parut sur sa face. Et le phonographe que j'oubliais, le bon confident. Il suffira de le dérouler plus lentement pour l'audition que pour l'inscription. C'est dit, là, vous demeurez avec moi pendant votre séjour à Amsterdam. Joie de la vocation satisfaite, douceur de ne point passer les jours vains et stériles. Devant la personnalité intelligente du docteur, dans ce milieu de science, je ressentis un bien-être délicieux. La mélancolie de ma solitude d'âme, le regret de mes facultés perdues, la longue misère de paria qui m'écrasait depuis tant d'années, tout s'évanouit, s'évapora dans le sentiment d'une vie neuve, d'une vie véritable, d'une destinée sauvée. Le docteur prit dès le lendemain toutes les dispositions nécessaires. Il écrivit à mes parents, il me donna un professeur de sténographie et se procura des phonographes. Comme il était fort riche et tout à la science, il n'est expérience qu'il ne se proposa de faire, et ma vision, mon ouïe, ma musculature, la couleur de ma peau furent soumises à des investigations scrupuleuses dont il s'enthousiasmait de plus en plus, s'écriant « Mais cela tient du prodige !» Je compris à merveille, après les premiers jours, combien il était important que les choses se fissent méthodiquement, du simple au composé, de l'anormal facile à l'anormal merveilleux. Aussi je recours à une petite habileté dont je ne fis pas un secret au docteur. C'était de ne lui révéler mes facultés qu'à mesure. La rapidité de mes perceptions et de mes mouvements l'occupa tout d'abord. Qu'il pût se convaincre, la subtilité de mon oui répondait à la vitesse de ma parole. Des expériences graduées sur les bruits les plus fugitifs que j'imitais avec aisance, les paroles de 10 ou 15 êtres parlant à la fois et que je discernais parfaitement, démontrèrent ce point jusqu'à l'évidence. La vélocité de ma vision ne se pouva pas moindre, et des essais comparatifs entre mon pouvoir de décomposer le galop d'un cheval, le vol d'un insecte, et le même pouvoir en des appareils de photographie instantanée furent tout à l'avantage de mon œil. Quant aux perceptions des choses ordinaires, mouvements simultanés d'un groupe d'hommes, d'enfants, récréations, évolution d'instruments, pierrailles jetées en l'air ou petites boules lancées dans une nasse allées pour être comptées au vol, elles stupéfiaient la famille et les amis du docteur. Ma course dans le grand jardin, mes bonds de 20 mètres, mon instantanéité à saisir les objets ou à les rejoindre, étaient plus admirées encore, non par le docteur, mais par son entourage. Et c'était un plaisir, toujours nouveau, pour les enfants et la femme de mon hôte, lors d'une promenade à la campagne, de me voir devancer un cavalier lancé au galop ou suivre la course de quelque hirondelle. Il n'est effectivement pur sang à qui je puisse donner 2/3 d'avance, quel que soit le parcours ni oiseau que je ne puisse aisément dépasser. Pour le docteur, de plus en plus satisfait du résultat de ses expériences, il me définissait ainsi. Un être humain, en tous ses mouvements, d'une vitesse incomparablement supérieure, non seulement à celle des autres hommes, mais encore à celle de tous les animaux connus. Cette vitesse, retrouvée aussi bien dans les éléments les plus ténus de son organisme que dans l'ensemble, en fait un être si distinct du reste de la création qu'il mérite à lui seul de prendre un nom spécial dans la hiérarchie animale. Pour la confirmation si curieuse de son œil, de même que pour la teinte violette de sa peau, il faut les considérer comme de simples indices de cet état spécial. Vérification faite de mon système musculaire, il n'y trouva rien de remarquable, sinon une excessive maigreur. Mon oreille non plus ne fournit pas de données particulières, ni d'ailleurs, sauf toujours la nuance, mon épiderme. Quant aux cheveux de couleur foncée, d'un noir violâtre, il était fin comme le fil de l'araignée, mais le docteur en faisait une étude minutieuse. « Il faudrait pouvoir vous disséquer !» me disait-il quelquefois en riant. Le temps passait ainsi doucement. J'avais très vite appris à sténographier grâce à l'ardeur de mon désir et à l'aptitude naturelle que je montrais pour ce mode de transcription rapide, où j'introduisis du reste quelques abréviations nouvelles. Je commençais de prendre des notes que mon sténographe traduisait, et pour le surplus, nous avions des phonographes fabriqués sur un modèle spécialement imaginé par le docteur et qui se trouvaient parfaitement adaptés à rendre ma parole ralentie. La confiance de mon hôte à la longue devint parfaite. Dans les premières semaines, il n'avait pu se défendre du soupçon, et c'était bien naturel, que la particularité de mes facultés n'alla pas sans quelque folie, quelque dérangement cérébral. Cette crainte écartée, nos relations furent tout à fait cordiales, et je crois aussi captivantes pour l'un que pour l'autre. Nous faisions l'examen analytique de ma perception à travers un grand nombre de substances dites opaques et à la coloration foncée que prenait pour moi l'eau, le verre, le quartz à une certaine épaisseur. On se souvient que je vois bien à travers le bois, les feuilles d'arbres, les nuages et beaucoup d'autres substances, mais que je distingue mal le fond d'une pièce d'eau ou à un demi-mètre de profondeur, et qu'une vitre, quoiqu'elle me soit transparente, l'est moins pour moi que pour le commun des hommes, et d'une couleur assez foncée. Un gros morceau de verre m'apparaît noirâtre. Le docteur se convainquit à loisir de toutes ces singularités, frappé surtout de me voir distinguer les étoiles par les nuits nuageuses. C'est à cette époque seulement que je commençais de lui dire que la couleur aussi m'arrive différente. Des expériences mirent à hors de doute que le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo me sont parfaitement invisibles comme l'infrarouge ou l'ultraviolet pour un œil normal. En revanche, je pus mettre en évidence que j'aperçois le violet et au-delà du violet une gamme de nuances, un spectre coloré au moindre double du spectre qui s'étend du rouge au violet. Ceci étonna le docteur plus que tout le reste. L'étude en fut longue, minutieuse, et d'ailleurs conduite avec un art infini. Elle devint, entre les mains de l'habile expérimentateur, l'origine de subtiles découvertes dans l'ordre des sciences classées par l'humanité, lui donna la clé de phénomènes lointains de magnétisme, d'affinité, de pouvoir inducteur, le guida vers de nouvelles notions physiologiques. Savoir que tel métal comporte une série de nuances inconnues, variables avec la pression, la température, l'état électrique, que les gaz les plus diaphanes ont des couleurs distinctes, même sur une petite épaisseur, se renseigner sur l'infinie richesse de tous objets qui paraissent plus ou moins noirs, alors qu'ils donnent une gamme plus magnifique dans l'ultraviolet que toutes les couleurs connues, savoir enfin combien varie en nuances inconnues un circuit électrique, l'écorce d'un arbre, la peau d'un homme en un jour, une heure, une minute, on imagine aisément tout le parti que put tirer un savant ingénieux de pareilles notions. Quoi qu'il en soit, cette étude plongea le docteur dans les délices de la nouveauté scientifique, auprès desquels les produits de l'imagination sont froids comme la cendre devant le feu. Il ne cessait de me dire « C'est clair, votre extra-perception lumineuse n'est en somme que l'effet de votre organisme développé en vitesse. » Nous travaillâmes patiemment toute une année sans que je fisse mention des Moedigen. Je voulais absolument convaincre mon hôte, lui donner des preuves innombrables de mes facultés visuelles avant de m'aventurer à la suprême confidence. Enfin, le moment arriva où je crus pouvoir tout dévoiler. C'était un matin dans un doux automne plein de nuages qui se roulait depuis une semaine sur la coupe du ciel, sans que la pluie en descendît. Van der Heuvel et moi parcourions le jardin. Le docteur était silencieux, tout absorbé par des spéculations dont j'étais l'objet principal. À la fin, il se mit à dire « C'est pourtant un joli rêve de voir à travers ces nuages, de percer jusqu'à l'éther, alors que nous, aveugles que nous sommes, « Oh, si je ne voyais que le ciel, » répliquai-je. « Ah oui, le monde entier, tout entier si différent. Bien plus différent même que je ne vous l'ai dit. Comment ? S'écria-t-il avec une avide curiosité. M'auriez-vous dissimulé quelque chose ? Le principal. Il se planta devant moi, me regarda fixement avec une véritable angoisse où se mêlait je ne sais quoi de mystique. Oui, le principal. Nous étions arrivés auprès de la maison. Je m'élançai pour demander un phonographe. L'instrument qu'on apporta était d'envergure, fort perfectionné par mon ami. Il pouvait enregistrer un long discours. Le domestique le déposa sur la table de pierre où le docteur et les siens prenaient le café par les beaux jours soirs d'été. Le bon appareil, horloge à miracle, se prêtait admirablement aux causeries. Notre conversation se poursuivit donc à peu près comme une conversation usuelle. « Oui, je vous ai caché le principal, voulant d'abord votre entière confiance. Et maintenant même, après toutes les découvertes que mon organisme vous a permis de faire, je crois bien que vous ne me croyez pas sans peine, du moins au début. » Je m'arrêtais pour faire répéter la phrase par l'instrument. Je vis le docteur devenir pâle de la pâleur des grands savants devant une nouvelle attitude de la matière. Ses mains tremblaient. « Je vous croirai, » dit-il avec une certaine solennité. « Même si je prétends que notre création, enfin je veux dire notre monde animal et végétal, n'est pas l'unique vie de la terre, qu'il en est une autre aussi vaste, aussi multiple, aussi variée, invisible pour vos yeux. » Il soupçonna de l'occultisme et ne put s'empêcher de dire « Oui, le monde du quatrième étage, les âmes, les fantômes, les spirites. Non, rien de semblable. Un monde de vivants, condamné comme nous à une vie brève, à des besoins organiques, à la naissance, à la croissance, à la lutte. Un monde faible et éphémère autant que le nôtre. Un monde soumis à des lois aussi fixes, sinon identiques. Un monde aussi prisonnier de la terre, aussi désarmé devant les contingences, mais d'ailleurs complètement différent du nôtre, sans influence sur nous, comme nous sommes sans influence sur lui, sauf par les modifications qu'il apporte à notre fond commun, la terre, ou par les modifications parallèles que nous faisons subir à cette même terre. J'ignore si Van den Heuvel me crut, mais à coup sûr il était sous le coup d'une vive émotion. Ah, ils sont fluides, en somme, demanda-t-il. Ben, c'est ce que je ne saurais dire, car leurs propriétés sont trop contradictoires pour l'idée que nous nous faisons de la matière. La terre leur est aussi résistante qu'à nous, et de même la plupart des minéraux, quoiqu'ils puissent entrer un peu dans un humus. Ils sont encore totalement imperméables, solides par rapport l'un à l'autre. Mais ils traversent, quoique parfois avec une certaine difficulté, les plantes, les animaux, les tissus organiques. Et nous, nous les traversons de même. Si l'un d'entre eux pouvait nous apercevoir, nous lui apparaîtrions peut-être fluides par rapport à eux, comme ils me paraissent fluides par rapport à nous. Mais ils ne pourraient vraisemblablement pas plus conclure que je ne puis le puis. Ils seraient frappés de contradictions parallèles. Leur forme a ceci d'étrange qu'ils n'ont point beaucoup d'épaisseur. Leur taille varie à l'infini. J'en ai connu qui atteignent 100 mètres de longueur, d'autres menus comme nos plus petits insectes. La nutrition se fait chez eux aux dépens de la terre et des météores, et chez d'autres aux dépens des météores et d'individus de leur règne, sans que, toutefois, elle soit une cause de meurtre comme chez nous, puisqu'il suffit au plus fort de prendre de la force et que cette force peut être soutirée sans exténuer les sources de la vie. Le docteur me dit brusquement, « Mais le voyez-vous depuis votre enfance ?» Je devinais qu'il supposait au fond quelques désordres survenus plus ou moins récemment dans mon organisme. Mais depuis mon enfance, oui, répliquai-je avec énergie. Je vous fournirai toutes les preuves désirables. Les voyez-vous maintenant ?
Je les vois.
Le jardin contient un grand nombre.
Où ?
Sur le chemin, sur les pelouses, sur les murailles, dans l'atmosphère. Car vous saurez qu'il en est de terrestre et d'aérien, et aussi d'aquatique, mais ceci ne quitte guère la surface de l'eau.
Sont-ils nombreux partout ?
Oui, et à peine moins nombreux qu'en ville, qu'au champ, dans les habitations que dans la rue. Ceux qui se plaisent à l'intérieur sont pourtant plus petits, sans doute à cause de la difficulté de passer, encore que les portes de bois ne leur soient pas un obstacle. Et le fer, la brique, la vitre, leur sont imperméables. Voulez-vous m'en décrire un, enfin plutôt de grande taille ?
Oh, j'en vois un près de cet arbre.
Sa forme est fortement allongée, assez irrégulière. Elle est convexe vers la droite, concave vers la gauche, avec des renflements et des échancrures. On pourrait imaginer ainsi la projection d'une gigantesque larve trapue. Mais sa structure n'est pas caractéristique du règne, car la structure varie extrêmement d'une espèce, si l'on peut employer ici ce mot, à une autre. Son infirme épaisseur est en revanche une qualité générale à tous. Elle ne doit guère dépasser un dixième de millimètre, alors que sa longueur atteint 5 pieds et sa plus grande largeur 40 centimètres. Ce qui le définit au suprême et tout son règne, ce sont les lignes qui le traversent, un peu dans tous sens, terminées par des réseaux qui s'affinent entre deux systèmes de lignes. Chaque système de lignes est pourvu d'un centre, espèce de tache légèrement renflée au-dessus de la masse du corps et quelquefois, au contraire, creusée. Ces centres n'ont aucune forme fixe, tantôt presque circulaire ou elliptique, tantôt contourné ou spiraloïde, parfois divisé par plusieurs étranglements. Ils sont étonnamment mobiles et leur grandeur varie d'heure en heure. Leur bordure palpite très fort par une sorte d'ondulation transversale. Généralement, les lignes qui s'en détachent sont larges, bien qu'il en soit aussi de très fines. Elles divergent et finissent en une infinité de traces délicates qui s'évanouissent graduellement. Quelques lignes, cependant beaucoup plus pâles que les autres, ne sont pas engendrées par des centres. Elles demeurent isolées dans le système et se croisent sans changer de nuance. Ces lignes ont la faculté de se déplacer dans le corps et de varier leur courbe, tandis que les centres et les lignes de raccord demeurent stables dans leur situation respective. Quant aux couleurs de mon Meiding, oh, je dois renoncer à vous les décrire. Aucune n'entre dans le registre perceptible pour votre œil, aucune n'a de nom pour vous. Elles sont extrêmement brillantes dans les réseaux, moins fortes dans les centres, et très effacées dans les lignes indépendantes, qui en revanche possède un poli extrême, un métallique d'ultraviolet, si je puis ainsi dire. J'ai rassemblé quelques observations sur le mode de vie, de nutrition, d'autonomie de Moedingen, mais que je ne désire pas actuellement vous soumettre. Je me tue. Le docteur se fit répéter 2 fois les paroles inscrites par notre impeccable truchement, puis il demeura longtemps en silence. Jamais je ne le vis dans un pareil état. Sa face était rigide, minéralisée, ses yeux vitreux, cataleptiques. Une sueur abondante coulait de ses tempes et mouillait ses cheveux. Il essaya de parler et ne le put. Il fit, tremblant, le tour du jardin, et lorsqu'il reparut, son regard et sa bouche exprimaient une passion violente, fervente, religieuse. On eût dit un disciple d'une foi nouvelle plutôt qu'un paisible chasseur de phénomènes. Il murmura enfin, « Vous m'avez accablé, mais tout ce que vous venez de dire paraît désespérément lucide. Et ai-je bien le droit de douter après ce que déjà vous m'avez appris de merveille ?»« Douter, lui dis-je avec chaleur, douter hardiment. Vos expériences seront que plus fécondes. » « Ah !» reprit-il d'une voix de rêve, « c'est le prodige même, et si magnifiquement supérieur aux 20 prodiges de la fable. Ma pauvre intelligence d'homme est si petite au prix de telles connaissances. Mon enthousiasme est infini. Cependant, quelque chose en moi doute. Travaillons à dissiper vos incertitudes. Nos efforts nous seront payés au centuple. » Nous travaillâmes. Quelques semaines suffirent au docteur pour dissiper tous ses doutes. Des expériences ingénieuses, des concordances indéniables entre chacune de mes affirmations, deux ou trois découvertes heureuses à propos de l'influence des Möbius sur les phénomènes atmosphériques, ne laissèrent aucune place à l'équivoque. L'adjonction du fils ailé de Van der Heuvel, jeune homme plein des plus hautes aptitudes scientifiques, accrut encore la fécondité de nos travaux et la certitude de nos trouvailles. Grâce à l'esprit méthodique de mes compagnons, à leur puissance d'investigation et de classement, faculté que je m'assimilais de mieux en mieux, c'est que ma connaissance des Möbiusgen, présentée d'incoordonnée et de confus, ne tarda pas à se transformer. Les découvertes se multiplièrent. La rigoureuse expérience donna de fermes résultats dans des circonstances qui, aux temps anciens et même encore au dernier siècle, eussent suggéré tout au plus quelques divagations séduisantes. Il y a maintenant 5 années que nous poursuivons nos recherches. Elles sont loin, bien loin, d'être arrivées à leur terme. Un premier exposé de nos travaux ne pourra guère paraître avant assez longtemps. Nous nous sommes d'ailleurs fixés comme règle de ne rien faire à la hâte. Nos découvertes sont d'un ordre trop immanent pour ne pas être exposées avec le plus grand détail, la plus souveraine patience et la plus minutieuse précision. Nous n'avons à devancer aucun autre chercheur, ni brevet à prendre ni ambition à satisfaire. Nous sommes à une hauteur où la vanité et l'orgueil s'effacent. Comment concilier les joies délicieuses de nos travaux avec le misérable appât de la renommée humaine? D'ailleurs, le hasard seul de mon organisation n'est-il pas la source de ces choses? Et dès lors, quelle petitesse de nous en glorifier! Nous vivons passionnément, toujours au bord de choses merveilleuses, et cependant nous vivons dans une sérénité immuable. Il m'est arrivé une aventure qui ajoute à l'intérêt de ma vie et qui, durant les repos, me comble de joie infinie. Vous savez combien je suis laid, plus étrange encore et propre à épouvanter les jeunes femmes. J'ai pourtant trouvé une compagne qui s'accommode de ma tendresse au point d'en être heureuse. C'est une pauvre fille hystérique, nerveuse, dont nous fîmes rencontre un jour dans un hospice d'Amsterdam. On l'a dit d'aspect misérable, d'une pâleur de plâtre, les joues creuses, les yeux égarés. Pour moi, sa vue m'est agréable et sa compagnie charmante. Ma présence, loin de l'étonner comme tous les autres, parut dès l'abord lui plaire et la réconforter. J'en fus touché, je voulus la revoir. On ne tarda pas à s'apercevoir que j'avais sur sa santé, sur son bien-être, une action bienfaisante. À l'examen, il parut que je l'influençais magnétiquement. Mon approche et surtout l'imposition de mes mains lui communiquaient une gaieté, une sérénité, une égalité d'esprit véritablement curative. En retour, je trouvais de la douceur auprès d'elle. Son visage me paraissait joli, Sa pâleur et sa maigreur n'étaient que de la délicatesse. Ses yeux, capables de voir la lueur des aimants, comme ceux de beaucoup d'hyperhystériques, n'avaient point pour moi ce caractère d'égarement qu'on leur reprochait. En amour, j'éprouvais de l'inclination pour elle, et qu'elle me rendit avec passion. Dès lors, je pris la résolution de l'épouser, et je parvins aisément à mon but grâce au bon vouloir de mes amis. Cette union fut heureuse. La santé de ma femme se rétablit, quoiqu'elle demeurât extrêmement sensitive et frêle. Je goûtais la joie d'être pour le principal de sa vie pareil aux autres hommes. Mais surtout, ma destinée est enviable depuis 6 mois. Un enfant nous est né, et cet enfant réunit toutes les caractéristiques de ma constitution. Couleur, vision, ouïe, rapidité extrême de mouvement, nutrition. Il promet d'être l'exacte réédition de mon organisme. Le docteur le voit grandir avec ravissement. Une espérance délicieuse nous est venue. Que l'étude de la vie moédique du règne parallèle au nôtre, cette étude qui exige tant de temps et de patience, ne s'arrêtera pas lorsque je ne serai plus. Mon fils la poursuivra, sans doute à son tour. Pourquoi ne trouverait-il pas des collaborateurs de génie, capables de la pousser à une puissance nouvelle? Pourquoi ne naîtrait-il pas de lui aussi des voyants du monde invisible? Moi-même, ne puis-je attendre d'autres enfants? Ne puis-je espérer que ma chère femme donnera le jour à d'autres fils de ma chair semblables à leur père? En y songeant, mon cœur tressaille, une béatitude infinie me pénètre, et je me sens bien parmi les hommes.